9h30, 11h.
Europe 1 Découverte.
Maud Fontenoy.
Jamais des élucubrations n'auront rendu aussi célèbre qu'au français de Bob Dylan. Le chanteur Antoine a remporté un énorme succès dans les années 60, à une époque où se vanter d'avoir les cheveux longs pouvait passer pour un acte de subversion extrême. Car après des études d'ingénieur à la prestigieuse école centrale Pierre-Antoine Muraccioli, c'est son vrai nom, décide de réaliser ses rêves, rêves de chansons et de voyages. Antoine est votre invité ce matin sur Europe 1 en cette nouvelle année, Maud Fontenoy.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme tous les matins en direct sur Europe 1. Alors, ce matin, 1er janvier, on a la chance parce qu'on reçoit une personnalité qui va nous apporter du soleil ce matin sur Europe 1. Bonjour Antoine.
Bonjour Maud, bonjour tout le monde et puis bonne année alors.
Hein. Voilà, bonne année à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui ne sommes peut-être pas en vacances, peut-être êtes-vous déjà en route pour le travail, qui sait. En tous les cas, aujourd'hui, nous allons parler rêves, nous allons parler soleil, plage, atoll. Vous allez nous emmener un petit peu sur votre bateau. Est-ce que vous êtes toujours avec cette chemise hawaïenne?
J'adore la couleur. Alors je vous souhaite une année pleine de couleurs à tout le monde, parce que moi je crois que la couleur c'est essentiel. Quand j'étais chanteur, j'ai chanté en chemise à fleurs, tiens ça rime, tiens, je vais faire une chanson. J'avais des chemises à fleurs qui avaient amusé tout le monde à l'époque. Je les avais un peu abandonnées ensuite quand je suis parti en bateau. J'étais un peu en bleu marine, comme les marins, quoi, côté vieille marine, quoi. Et puis je suis arrivé en Polynésie. Je suis arrivé en Polynésie il y a une trentaine d'années et j'ai vu que là-bas les fleurs étaient partout, y compris et surtout sur la peau des gens, sur les vêtements des gens et tout. Alors depuis, je me suis voué à la chemise à fleurs et j'encourage tout le monde à choisir la couleur.
Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu ce cadeau pour la nouvelle année, peut-être que vous pouvez l'offrir maintenant à vos proches. Mais alors ce qui m'étonne moi, c'est de vous voir arriver en studio Europe 1 en plein hiver, on est début janvier et vous arrivez toujours en bras de chemise. Alors vous mettez un t-shirt en dessous, vous rajoutez un manteau.
Oui oui, non mais c'est l'été. Je suis habitué. Lorsque je reviens en France, je sais que j'ai des calories, j'ai emmagasiné des calories pour quelques semaines et comme mes passages en France dure à peu près 2-3 mois. C'est vrai qu'à la fin, j'ai la voix enrouée comme ça, j'ai la voix grave, je suis fidèle à la chemise à fleurs.
Toujours la chemise à fleurs. Alors, vous êtes de retour en France parce que vous étiez là pour le Salon Nautique. Vous êtes venu pour le mois de décembre parce que c'est cette rencontre des amoureux de la mer. Vous veniez présenter ce livre qui vient de sortir. Ça s'appelle Antoine, au bout de mes rêves. Souvenirs, 1974-2004. 30 ans sur les océans aux éditions Artaud. On va revenir en fait sur ce livre où vous racontez vos souvenirs de navigation et puis toujours des films hein, puisque vous sortez régulièrement des films qui s'appellent Il était une fois. Cette fois, elle est sortie l'Afrique australe et puis la Nouvelle-Calédonie. Hein? On imagine que vous avez toujours fait ça, mais alors comment est-ce que cette passion de la mer vous est venue?
Eh ben moi ça a été un hasard hein, ça a été un hasard. Je connaissais pas le bateau, je faisais beaucoup de voyages dans mon enfance parce que mon père était voyageur. Ensuite, j'ai choisi le métier de baladin, de chanteur, ce qui me plaisait le plus, c'était les voyages. Mais très vite, je me suis aperçu que chanteur, on voyait que l'aéroport, le studio de télé et le grand hôtel, quoi. Et j'avais envie d'autre chose. Et tout à fait par hasard, je suis tombé sur le bateau à voile. J'ai découvert, je me suis embarqué sur un petit bateau que j'avais loué presque par accident. Il était dans l'inventaire d'une maison qui m'avait plu. Et puis,
C'était quoi comme bateau?
C'était une épave. Il s'appelait le Kiva et il allait pas bien loin. Mais très vite, j'étais convaincu en quelques heures et ma vie a été changée par la lecture d'un livre. Je le dis dans ce livre, souvent, il y a beaucoup de déclics. J'essayais dans ce livre de parler un peu comment toutes sortes de déclics ont entraîné un changement, une évolution, ont fait que ma vie est devenue ce qu'elle est, quoi. Et ces déclics sont très souvent un livre ou un magazine ou une émission de
Alors,
radio.
Alors, quel était ce livre-là, justement?
C'était le récit de voyage d'une bande de copains qui avait fait un tour de monde sur une goélette qui s'appelait l'Europe. En faisant des photos, des reportages et tout. Et j'ai dit, bon sang, mais voilà peut-être un plan de vie intéressant. Alors pendant 5 ans, je me suis débrouillé pour apprendre. Je me suis libéré de mes impôts, de mes dettes, de problèmes.
Oui, parce que tous ceux qui nous écoutent, et surtout que là on va parler des bonnes résolutions de l'année 2009, on a tous des rêves plein la tête, on a tous souvent envie de partir à l'autre bout du monde, changer de vie. Et pourtant on n'ose pas, il y a toujours ces contingences qui nous retiennent sur Terre. Et puis bon, on a des crédits, on a des attaches, on est un peu enchaîné. Comment vous avez réussi à faire pour vous, justement, pour vous libérer de tout ça?
J'avais eu la chance de pouvoir m'acheter une maison qui m'a permis, j'ai vendu la maison, J'ai changé mon niveau de vie totalement. J'ai divisé par 10 mon niveau de vie quand je suis parti. Et grâce à la maison, j'ai pu vendre, j'ai pu payer mes impôts, payer tous mes contrats, les choses en retard et tout, me libérer de tout engagement. Et quand je suis parti, j'avais plus rien. Je raconte un peu dans le livre comment je suis parti, j'avais plus rien du tout. J'avais la coque d'un bateau. Il était même pas aménagé dedans. Il y avait le moteur qui trônait, qui était boulonné sur le fond de la coque. Il y avait un vague plancher. Il y avait rien, pas un meuble, pas un aménagement, rien du tout. Mais je voulais partir et je suis parti.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce sera encore possible? On est quand même très cartésien, on a besoin de toujours avoir un peu sous le pied. Et puis là, vous partez sans rien, sans...
Ça sera toujours possible. Ça sera toujours possible, c'est indépendant, totalement indépendant. J'ai des copains navigateurs que j'encontre au bout du monde. Ça ne veut pas dire que j'engage tout le monde à partir au bout du monde sur un voilier, ce n'est pas forcément ça.
Vous avez entendu, hein, on ne vous pousse pas à partir.
Ce n'est pas en ça que tout le monde doit se réaliser. Mais si vous avez un rêve, quelque chose, un changement professionnel, ou bien à cette époque de bonnes résolutions, c'est peut-être le moment, changement professionnel ou bien changement de vie privée ou bien découverte ou voyage d'aventure ou partir au bout du monde peut-être en marchant ou en voiture ou autre ou à vélo, pourquoi pas. Il y a plein de gens qui le font.
Gens qui voyagent, on en reçoit énormément ici sur Europe 1, mais on a l'impression qu'aujourd'hui c'est plus difficile, qu'on n'a pas les mêmes facilités pour partir.
Il y a en même temps des facilités, l'information circule tellement bien maintenant, on peut découvrir un tas de choses grâce à Internet, grâce aux moyens de communication actuels. Il y a beaucoup de moyens de raconter ces voyages. Je crois que c'est de tous les temps. Si on est vraiment motivé, qu'on a vraiment un rêve, on peut arriver à le réaliser au moins dans une bonne partie.
Alors vous rêviez de partir faire un tour du monde, mais alors au départ vous vouliez le faire avec des copains. Puis alors comme par enchantement, enfin comme bizarrement en fait, ils se sont tous uns après les autres un petit peu, ils ont reculé,
c'est assez souvent comme ça. C'est ça qui fait échouer les projets dans la vie. L'un s'est marié, sa femme voulait pas partir. Un autre professionnellement pouvait pas quitter, il avait une place importante dans un magazine, il pouvait pas partir et ainsi de suite quoi. Et puis donc le projet était tombé à l'eau et puis tout d'un coup j'ai réalisé qu'il fallait le faire seul. Donc je suis parti seul, puis ses copains, je les ai recroisés, comme j'ai croisé beaucoup de monde. Dans ce livre je raconte...
Énormément d'anecdotes,
beaucoup de rencontres. Quand on se penche sur son propre, on peut être accusé de nombrilisme quand on raconte je tout le temps. Mais dans ce livre, c'est pas je raconte les choses qui me sont arrivées. Je raconte ce qui m'est arrivé à moi parce que c'est celle que je connais, quoi. Sinon, je raconterais volontiers celles qui sont arrivées à quelqu'un d'autre. Mais en l'occurrence, j'ai eu la chance de vivre au fil de ces 30, 35 ans depuis que je voyage maintenant, tellement d'émotions, tellement de rencontres, de voir tellement de lieux et de belles choses. Bon, des choses moins belles aussi, mais j'ai un goût pour la beauté et pour le bonheur.
Alors, revenir justement sur cette particularité qui est la vôtre, Antoine, c'est de montrer que le beau de ce qui nous entoure sur la planète. Mais juste un petit clin d'œil à votre premier ouvrage, qui s'appelait Oyez, souvenirs de 1944 à 1974. C'était le premier tome, en fait, aux éditions Artaud. Et là, vous parliez également de toutes vos rencontres qui ont marqué, qui ont jalonné votre vie. Est-ce que vos rencontres de ce premier livre, ces rencontres un peu du show business, que ça soit Johnny ou les autres, est-ce qu'ils vous ont suivi tout au long de votre vie? Est-ce que tous ceux de votre première vie, je dirais, vous ont accompagné dans vos voyages futurs?
Oh ben c'est amusant. Dans ce livre, je raconte pas seulement les îles du bout du monde, mais aussi des retours souvent amusants, souvent pittoresques, dans le monde des médias. Dans le monde des médias, parce que c'est drôle, par exemple Johnny, je raconte qu'un jour j'ai reçu un coup de téléphone de Johnny, longtemps après les histoires de Johnny en Cajamé de Rano.
Oui, mais voilà, aviez une petite...
Il
vous en a pas voulu?
Non.
S'est passé? Parce qu'on a raconté qu'il y avait
Une guéguerre, mais c'était la vieille histoire, et puis c'était plutôt pour rigoler qu'autre chose, quoi. Et on s'est rencontrés souvent avec Johnny, là d'ailleurs pas plus tard que dans la même rue qu'Europe 1, il y a 3 semaines à peu près. Et un jour j'ai reçu un appel de lui, il voulait se faire un bateau, il voulait se construire un voilier, alors je lui ai donné des conseils, mais finalement, il s'est acheté un bateau à moteur. Mais pareil, Renaud qui rêvait de partir en bateau, un jour, se précipite vers moi et me dit, j'ai commandé un bateau, ça y est, j'ai commandé un voilier, je vais partir avec ma femme et ma gosse et tout. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que alors qu'il partait vraiment pour faire un tour du monde, il a eu plus qu'une tempête, il a eu un succès gigantesque avec une chanson qui s'appelait « C'est pas l'homme qui prend la mer ». Résultat des courses, il est devenu une immense vedette de la chanson et il a jamais pu faire son voyage en bateau.
Alors justement, Antoine, si on revient sur votre première vie, cette vie de chanteur, vous étiez aussi une grande star de la chanson. Peut-être qu'aujourd'hui, la jeune génération se souvient peut-être plus de la pub Atoll, on va en reparler, peut-être moins de cette période chanteur. Mais alors, est-ce que c'est une période qui vous manque? Et comment est-ce que vous avez commencé dans la chanson?
Non, c'est une période qui ne me manque pas du tout, dont je garde... Je suis très content d'avoir vécu ça. Je raconte toujours une petite anecdote. Mon fils, qui a 18 ans, qui était l'an dernier en terminale, un jour est venu me voir et m'a dit « Papa, t'es dans mon livre d'histoire. » Et le manuel d'histoire des terminales, il y a le texte des élucubrations. On raconte le phénomène social que ça représentait, quoi. Donc c'est plus qu'un succès dans la chanson, c'est carrément... Je suis pas un monument historique, mais c'est carrément un truc. C'est mieux qu'une décoration. Hein, mieux qu'une décoration. Donc, si que maintenant on me voit beaucoup, les plus jeunes voient la publicité Atoll, c'est amusant aussi. Ça a remplacé Oyer. Mais d'un bout à l'autre, je suis resté le même. Je suis resté constant dans cette envie de liberté.
Europe 1 découverte. Maud Fontenoy.
Avec ce matin sur Europe 1, le chanteur Antoine et ses célèbres élucubrations.
M'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah. L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant. C'était Yvette Tornier qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Oh yeah. Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jour, il n'était pas très malin, il a pris un laxatif au lieu de prendre le train. Oh yeah.
Alors on est en train d'écouter une célèbre chanson, on vous connaît pas que par ça Antoine, mais on a commencé à vous connaître par cette chanson.
Ah, c'est ma carte de visite hein.
C'est un petit peu votre carte de visite, on voyait tout le monde en studio qui chantait et qui dansait sur cette hymne qu'on connaît, les élucubrations, qui est sortie il y a un petit moment maintenant hein.
Oh bah ça doit faire 40 ans et quelques, non plus.
Tant que ça.
Ben oui, bien ça fera bientôt un demi-siècle, c'est un. Alors, du haut de ces pyramides, un demi-siècle vous contemple.
Est-ce que vous êtes lassé de entendre, de réentendre encore cette air musicale?
Non, parce que je pense que le souffle de liberté que j'avais mis dans cette chanson, eh ben le monde en a besoin plus que jamais. Alors elle existe toujours quoi. J'aurais aimé vous passiez le couplet où je réclamais la pilule en vente dans les Monoprix.
Alors oui, justement, j'allais vous en parler, oui, parce qu'en fait, vous étiez un peu provoque souvent un petit peu dans vos chansons. En tous les cas, vous essayez de faire passer quelques messages et alors là, vous essayez de tenter qu'on mette à distribution la pilule dans les Monoprix, c'est
oui,
ça?
Oui, c'était un peu provocateur comme expression, mais c'était pas de la provocation, je pensais que à l'époque on vivait une vie très 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 conventionnelle quoi, c'était l'époque gaulienne, c'était avant 60. Les gens étaient très très square. Je trouve qu'ils ont tendance à repartir dans ces directions-là de nos jours maintenant. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours besoin de liberté aussi. Et en particulier, la contraception était interdite. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'en parler. Et personne ne pouvait en parler. Si on en parlait à Europe 1, qui existait déjà à l'époque, eh ben, on risquait d'aller en prison. Quoi. J'avais fait une chanson qui mettait ça, hein, qui mettait ça vraiment sous le feu des projecteurs.
En préparant cette émission, on a lu quelque part qu'à la place du mot pilule, vous aviez mis au début le mot cannabis. Est-ce que c'était vrai, ça?
Au début, c'était la première, quand j'avais écrit la chanson, la première ébauche de la chanson, c'était hashish. Je mettais le hashish dans les Monoprix, mais c'était pas, je préfère infiniment l'avoir changé ensuite parce que le hashish, ça m'a jamais intéressé. Ça, très sérieusement, je pense que il y a d'autres, si on a envie de planer un peu, il y a des substances bien meilleures, comme un bon vin rouge. Un bon vin rouge bu avec modération.
Toujours.
Mais par contre, quand tout d'un coup est venue l'idée de faire la pilule, c'était tellement important. Je pensais pas que 40 ans après on en parlerait encore. Mais c'est vrai que l'importance a été telle que moins d'un an après, la contraception était libéralisée, la loi Neuwirth. Moins d'un an après, c'était libéralisé.
Aujourd'hui, vous continuez à avoir des combats. Est-ce que vous vous sentez moins écouté ou tout autant?
J'ai pas de combat, j'ai jamais eu de combat, moi. Je suis un témoin et j'adore communiquer. J'adore communiquer, parler des choses positives. J'ai pas envie de faire des scrogneux, de me dire de lutter quand ceci c'est pas comme ça. Si je pouvais faire quelque chose dans la vie, moi, Et ma vie, et j'espère que ça aurait été essentiellement cela, c'est de semer des graines d'utopie. Semer des graines d'utopie, dire qu'il y a des choses possibles. Et cette chanson, c'était une première graine d'utopie. C'est une première graine d'utopie. Si des gens en ont tiré du plaisir, c'est déjà ça. S'ils en ont tiré l'idée qu'ils pouvaient peut-être remettre en question des conventions et tout. Le drame, c'est les conventions. Les gens, ils sont agressés en permanence par les conventions. On leur dit, il faut faire comme ça, faut t'habiller en noir, parce que si t'es pas habillé en noir, tes copains vont te regarder de travers, etc. et tout. Il faut que tu te fasses une place dans la vie, sinon ça. Moi, quand je suis parti en bateau, je continuais c'était le même rêve le même envie de liberté qui était là et que j'ai voulu concrétiser par ce mode de vie-là. Et je suis sûr que il y a plein de choses qui existent. Moi, je vois des images de beauté et de liberté partout dans le monde. Je vois des images laides et des images d'enfermement aussi. Mais j'ai envie de montrer que la beauté parce que elle existe et elle est possible.
Alors justement, on va revenir sur votre côté beau, et vous mettez que des belles images hein, dans le livre que vous publiez aux éditions Artaud. Il y a un petit cahier photo à l'intérieur qui nous fait partir aussi avec vous, comme vos films d'ailleurs. Mais quand on revient sur cette époque showbiz, et puis vous dites que finalement il ne faut pas être conformiste. Pourtant, vous avez fait de belles études. Vous étiez à l'école centrale. Est-ce que ça, c'était pas trop conformiste pour vous?
Ah ben, c'était conformiste. Moi, j'étais mis sur des rails des études par mes parents. Mon père était ingénieur. Il était logique que je devienne ingénieur. Mais par contre, quand j'ai atteint mon diplôme, j'étais le même jour, j'étais en vedette à l'Olympia, j'étais déjà devenu chanteur, et puis je savais que le voyage remplacerait largement, ça serait pas, que je ferais pas des voyages d'ingénieur, quoi, que je ferais des voyages très différents. Je savais pas sous quelle forme. Le bateau, comme je disais, ça a été une découverte presque par hasard, mais.
Donc c'était sans l'accord de vos parents, les voyages forment la jeunesse, c'était pas ce que vous disiez votre papa le soir.
Je dirais que mon père, lui, comme il avait été voyageur déjà dès sa jeunesse, lui avait choisi de vivre dans les pays d'outre-mer. Je suis né à Madagascar, j'ai vécu à Saint-Pierre-et-Miquelon au Cameroun.
Exactement.
Lui, ça lui plaisait plutôt. Lui, jusqu'à la fin de ses jours, je dirais pas qu'il a encouragé, mais il a regardé avec joie. Et j'ai regretté qu'il soit plus là en vie quand je suis parti en bateau, parce que ça lui aurait plu, je crois.
C'est votre maman qui avait peut-être plus de crainte.
Ma maman, elle était plus comme les mamans, j'imagine, plus la peur de l'avenir, etc. Et tout. Donc, elle était moins ouverte à cette.
Alors, pour tous ceux justement qui nous écoutent ce 1er janvier et qui ont envie eux aussi de partir, est-ce qu'il faut le faire sans l'accord de ses proches? Est-ce qu'il faut à un moment donné se fâcher presque un peu pour libérer
Crois que si on a envie d'une liberté dans un domaine ou un autre, de remettre une chose en question, de remettre quelque chose en question, on peut le faire sans claquer des portes et sans briser des cœurs et sans se... Si on a envie de faire quelque chose, qu'on a envie d'être libre dans un domaine ou un autre de sa vie, eh ben, il faut l'expliquer, il faut convaincre les gens, et puis voilà, il faut convaincre, il faut parler, et puis bien expliquer que vous êtes comme ça, quoi. Que vous êtes comme ça, si vous avez envie d'être comme ça, eh ben, c'est à eux de comprendre. Il ne faut pas vous changer. S'ils vous aiment, il ne faut pas qu'ils vous changent.
Alors vous avez décidé de quitter la musique également. C'était pourtant une grande passion pour vous. Vous avez fait pas mal de voyages aussi avec la musique.
J'ai fait chanteur pendant 8 ans à plein temps. Ça m'a emmené dans beaucoup de pays. Mais comme je disais, je ne voyais pas grand-chose du pays. Et j'avais envie de prendre beaucoup plus mon temps. Et quand le bateau est venu, la chanson, on a fait partie tout de suite, puisque, bon, les élucubrations, c'était au début. Mais depuis, j'ai enregistré pas mal d'albums qui, sans être dans la hit parade, ont eu leur petit succès, comme en particulier la Motogody ou Touchez pas à la mer, des chansons où j'ai essayé de retranscrire un petit peu à un rythme plus calme. Je suis ravi d'avoir connu l'époque de la chanson, la gloire, entre guillemets, avec les gens excités qui vous courent après, mais en même temps, ça vous complique un peu la vie, un peu dans tous les domaines.
Ça ne vous fait pas tourner la tête?
Ça ne fait pas tourner la tête. Bon, c'est difficile de garder les pieds sur terre, de rester cool quand des gens vous courent après, quand vous voyez 500 personnes qui font la queue pour avoir une signature, et ainsi de suite. Mais je dis toujours que maintenant, j'ai acquis l'idéal. C'est-à-dire que depuis que je voyage, j'ai juste la célébrité qu'il faut pour avoir le bon. Le plus important, c'est quoi? C'est le sourire des gens, quoi. C'est que les gens voient pas en vous un inconnu dont il faut se méfier par principe, parce que dans ce monde, on se méfie des gens qu'on connaît pas. Comme ils me connaissent, eh ben, ils savent que je vais pas violer leur fille de 12 ans, ni voler leur portefeuille, ni détruire la voiture. Donc, j'ai le meilleur. Parce que j'ai aussi les avantages que donne la célébrité. La gentillesse, la possibilité de rendre possible mes voyages avec les gens qui m'écoutent et qui me suivent.
Antoine, nous sommes toujours avec vous. Alors pour parler voyage, ça nous fait beaucoup de bien de partir un petit peu au soleil. On parlait musique, mais on va partir plutôt dans le vif du sujet de ce qui est votre actualité aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes mal à l'aise quand vous êtes de retour à Paris, entre ces murs et ce ciel assez bas et la pluie qui tombe?
D'abord, Paris est une ville magnifique. On a la chance d'habiter en France.
Ça ressemble pas vraiment à Tahiti, un des
plus beaux pays du monde quand même. Moi, j'adore en particulier l'Auvergne. Là, j'ai passé une partie de cet automne en France, à faire une tournée de conférences pour Connaissance du Monde. J'ai présenté soit un film sur Madagascar, soit sur Tahiti, dans 50 conférences successives, et ça m'a amené à parcourir la France, et qu'est-ce que c'est beau. L'automne, les couleurs de l'automne, autour de Limoges, ou sur l'Auvergne, ou sur la... Il m'est arrivé, on en fait beaucoup de routes comme ça, c'est pas les tournées de chansons, mais on fait beaucoup de routes, et il m'est arrivé de quitter l'autoroute juste pour aller tourner en rond sur des aires de stationnement qui étaient pleines d'érables de couleurs magnifiques,
bien
quoi.
Sûr.
Alors maintenant, l'hiver, je me sens un peu... Là, je me sens pas oppressé, mais il est temps que je reparte, rejoindre mon bateau, parce que l'hiver, lui, est un peu trop gris, un peu trop froid à mon goût, mais je reviendrai au printemps. On vit dans un beau pays, et j'adore ici, donc quand je reviens, c'est avec plaisir, mais je suis aussi ravi de repartir.
Comme les hirondelles qui reviennent au printemps, ça fait rêver. En tous les cas, quand vous êtes sur Paris, vous parlez de Paris avec encore des étoiles dans les yeux, on a l'impression que vous avez appris à vous émerveiller des choses. Est-ce que ça s'apprend avec le voyage?
Ah ben oui, je dis toujours, si quelqu'un, si on faisait tous le solitaire un petit peu, si réglementairement il fallait faire, enfin j'aime pas les règlements, donc si les gens avaient l'habitude de faire le solitaire un petit peu une fois de temps en temps.
Ça veut dire partir tout seul,
pas forcément sur un bateau. Hein, pas,
non, n'importe où, mais partir.
Vous savez ce que c'est d'être seul sur un bateau, mais vous savez l'effet que ça fait, la solitude, quoi, la soif de rencontre qu'on a quand on arrive au bout, à quel point on trouve tout le monde beau quand on arrive. On trouve tout le monde beau, on va trouver ceux qui ont de beau.
Ils nous ont tellement manqué.
Ah, voilà, on trouve ceux qui ont de beau dans chacune des personnes, quoi, et les défauts, les imperfections de chacune des personnes, on les oublie. Parce que on a été seul pendant tout ce temps-là. Depuis presque 34 ans maintenant que je voyage comme ça, c'est fait là toujours, quoi. Donc j'arrive et puis je suis ravi de revoir du monde, de retrouver des gens. Si tout le monde faisait un peu ça, je crois que tout le monde saurait s'apprécier plus.
C'est ça que vous aimeriez faire, vous, le service militaire, on l'a annulé. Il faudrait faire un service humanitaire, ou en tous les cas un service pour aller voyager, pour sortir un peu de la France, pour se rendre compte que c'est pas partout pareil.
Il y avait une chose formidable qui s'appelait le Tour de France à l'époque, des compagnons. Quand un compagnon, un apprenti avait fini son travail, ça faisait partie de son éducation d'aller faire le Tour de la France, où il y avait le Grand Tour des touristes, des voyageurs anglais, le Grand Tour. Mais c'est une chose que je reproche à l'éducation. J'ai des enfants qui arrivent à l'âge de travailler maintenant. Chose que je reproche à l'instruction maintenant, l'éducation maintenant, c'est qu'il n'y ait pas une obligation quelque part, au moins qu'ils aient un an sabbatique avant de prendre un nouveau job, quoi, avant de s'embarquer dans la vie active, qu'ils aient un an pour aller voir. Moi, mes fils me diraient...
C'est pas un an de perdu, en fait.
Ah non, c'est pas
souvent
un an
ce qu'on entend dire.
Ah oui, oui, non, non. Moi, mon fils me dirait, je pars, mon fils aîné qui est en train d'arriver à la vie active, il me dirait, je voudrais partir un an, voir comment ça se passe, mon métier. Il est dans la conception de jeux vidéo, là. Il est passionné, il est très, très, très costaud et très demandé. Et il me dirait, je vais aller voir à Singapour comment ça se passe, et puis ensuite en Nouvelle-Zélande dans les studios de Peter Jackson, et puis ensuite voir au Québec chez Ubisoft ou autre, voir tout ça. Je dirais, je t'aide, je t'encourage à le faire, voyez. Et ça me manque un petit peu dans l'éducation maintenant. On est tous un petit peu effrayés de l'avenir, la peur, tout ça, et on prend pas cette liberté. C'est vrai que c'était plus facile de mon temps, peut-être. C'était plus facile. Mais il reste des tas de possibilités. Et puis, j'encourage vraiment les gens à ça.
Des difficultés, vous en avez rencontré, j'imagine, quand même, en partant. Est-ce que vous avez eu des problèmes de sous? Parce que vous n'avez pas toujours eu la pub Atoll, ni les livres. C'est qu'après, vous avez décidé d'écrire.
J'ai eu la chance toujours des hasards. Par exemple, lorsque je suis parti, je me suis mis à écrire. Pour, au milieu de toute cette solitude, je me suis retrouvé pendant des semaines et des semaines seul sur l'océan Atlantique, et je me suis mis à écrire pour mon plaisir personnel. Je ne savais pas du tout si j'utiliserais ces textes, quoi. Je les ai d'ailleurs jamais utilisés. Mais, arrivé à Rio, un jour, ça fait partie de tous les déclics que je raconte, hein. Quelqu'un qui est venu taper à la porte de la coque de mon bateau, dans le mouillage de la baie de Yacht Club de Rio de Janeiro, il m'a dit, bonjour, je m'appelle Antoine, je suis français, et on m'a donné cette lettre par erreur, elle vous est adressée à vous. Et c'était la lettre d'un éditeur qui me demandait d'écrire un livre. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, je vais bien écrire, mais pas un livre, j'en écrirai trois. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et mon premier livre, j'ai écrit à peine 3 ans après être parti en bateau, après mon départ.
Quoi. C'était Artaud.
C'était Artaud déjà. C'était Artaud. C'était la lettre venait de Jacques Artaud, le père de Florence. Et c'est une famille qui a toujours été, qui a une grande tradition nautique.
Vous êtes resté fidèle. Vous publiez toujours chez eux aujourd'hui.
Oui, je publie aussi. J'ai publié aussi chez d'autres éditeurs, en particulier les albums de photos, les beaux albums de photos chez Gallimard, avec qui je m'entends très bien. Et puis aux éditions La Martinière également. Parce que j'aime bien la diversité, j'aime bien les esprits différents. Quoi,
pourquoi est-ce que vous avez pris ce plaisir à écrire? Vous dites que vous êtes un bon communicant. Est-ce que c'est par les livres que vous tentez d'inciter chacun à se trouver, à partir vers son rêve personnel?
Déjà, purement égoïste, moi, filmer ou photographier, ça double ou triple le plaisir pour moi. C'est-à-dire que souvent, j'irai dans un endroit et je le photographierai pas ou je le filmerai pas, je ne dirai pas que j'emmerderai, mais il me manquerait quelque chose. Quoi.
Pourtant, on pourrait croire que ça serait l'inverse, parce qu'on dit qu'on perd des fois des instants en sortant sa caméra, en cherchant la cassette, les piles.
Mais j'ai eu ce témoignage de, bon, maintenant la technologie a fait tellement de progrès qu'on est prêt à faire des photos à tout moment. Hein.
C'est-à-dire que vous, sur vos bateaux, vous n'avez pas de soucis pour recharger. Comment ça fonctionne au niveau énergie?
Panneaux solaires en grande partie, un petit peu de moteur thermique, un petit peu, mais... Sur le bateau, je disais que j'ai diminué ma consommation mon niveau de vie par 10, mais les consommations pareilles. Nous, on vit sur le bateau avec 600 litres d'eau, on vit 2 mois, quoi. Et puis, vous savez ce que c'est aussi, vous avez vu ce que c'est et puis, quand il pleut, on récupère l'eau, puis l'énergie solaire.
Donc, recharger vos batteries de caméra, ça n'a jamais été un souci?
Non, ça n'a jamais été, enfin, de temps en temps, on oublie, mais ça fait des tels progrès, hein. Toute cette technologie, bon, moi, j'adore la technologie quand elle aide à la création. J'aime pas la technologie, je regarde jamais la télé. Je regarde jamais la télé, par exemple. Mais par contre, créer, écrire, photographier, filmer, j'adore le fait de pouvoir monter un film, de faire. On le fait tout. Ma compagne et moi, on travaille sur le bateau. Tous ces films-là, par exemple, ces deux nouveaux films, Nouvelle-Calédonie et Afrique australe, qui sont le 23e et 24e que j'ai tourné depuis le début de mes voyages, eh bien, on les réalise en presque 99% sur le bateau, quoi. Sur le bateau, avec la technologie moderne, et c'est un vrai bonheur.
9h30, 11h,
Europe 1 Découverte,
Maud Fontenoy.
Que la nouvelle année devait commencer dans le froid et sous la pluie. Pas nous, et surtout pas votre invité Maud Fontenoy, car c'est une véritable invitation au voyage et au rêve que nous propose ce chanteur, poète, aventurier, voyageur, pour notre plus grand plaisir, pour votre plus grand plaisir. Antoine est l'invité d'Europe 1 Découverte ce matin.
Nous sommes toujours en effet avec Antoine et nous parlons voyage, bateau, découverte, île paradisiaque. C'est vrai que ça vous donne envie à tous de partir en vacances à l'autre bout du monde. Mais alors, partir à l'autre bout du monde, vous l'avez dit, on peut partir en vélo, on peut partir par différentes manières.
À la rame aussi,
on pourrait presque partir à la rame, mais là c'est franchement une galère, je ne vous conseille pas non plus. On se demande, vous dites que vous êtes parti en mer un peu par hasard, enfin en tous les cas vous n'aviez pas, vous n'étiez pas un navigateur averti. Alors pour tous ceux qui nous écoutent et qui font un peu de bateau, mais pas trop, on ne doit pas quand même être super au courant de comment fonctionne un bateau, de comment on gère dans la tempête pour partir, pour un grand voyage comme celui-là?
Bon, j'y connaissais pas grand-chose quand je suis parti. J'avais quand même fait un certain nombre de cours, j'avais suivi des cours, j'avais ensuite utilisé...
C'est marrant que vous racontiez ça, parce que finalement, on se dit Antoine, c'est forcément un super bon, que vous osiez raconter que finalement vous étiez pas si bon que ça au début.
Ah bah non, bah quand je suis monté sur un bateau pour la première fois, j'y connaissais rien. Et quand je suis parti, je connaissais à peine plus. Et puis, mais j'ai fait, c'est toujours le conseil que je donne aussi, des petits pas. Je crois que c'est Bernard Moitessier, grand navigateur, qui disait « Le voyage d'une vie commence par un petit pas. » Mais l'essentiel, sitôt qu'on a fait un petit pas, on est en voyage. Et l'essentiel, c'est d'être en voyage, quoi. Genre, quand je suis parti, j'ai pas tout d'un coup largué des amarres disant « Je pars traverser l'Atlantique ». J'ai dit « Je partirai traverser l'Atlantique, mais j'y mettrai le temps qu'il faudra. Et j'irai par petits pas. » C'est-à-dire que j'étais à Marseille. Ma première navigation a consisté à traverser le vieux port de Marseille, quoi. Puis ensuite, je suis allé un peu plus loin, je suis allé jusqu'à Port-Camargue. Et puis ensuite, petit à petit jusqu'à Port-Vendres. Et puis après, j'ai passé le Cap-Creux, je suis allé rendre visite à Dali, à Cadaqués. Et puis après, et ainsi de suite comme ça.
Vous vous êtes fait peur ?
Au bout de, je me suis fait peur de temps en temps, mais rarement.
Parce que vous aviez pas de météo qui tombait sur le bateau.
Il y avait pas beaucoup de météo à l'époque, mais déjà quand on part par petits pas, on sait déjà, on part par beau temps et on s'arrange pour être arrivé avant que le temps s'abîme quoi. Si on a un petit peu de chance, ça va aller. Il fallait être prudent quoi. Je me rappelle par exemple ma première traversée. Beaucoup de gens se sont fait peur en partant traverser le golfe du Lion. Parce que de Marseille à l'Espagne, il pouvait avoir un temps épouvantable. Moi, la météo m'a annoncé un mauvais temps, qu'il fallait être arrivé dans un abri avant 10 heures du matin. J'y étais à l'abri, donc c'était à Cadaqués et Dalie. J'étais à l'abri à 10 heures du matin et une heure après, se déchaînait l'enfer, quoi. J'aurais été en mer à ce moment-là, ça aurait été l'horreur.
Mais vous pensez qu'on regarde pas assez, justement, les indications, parce que c'est marqué, la capitainerie, finalement, de partir. Si on regardait un peu plus, on rentrerait à l'heure.
Oui, ben, le problème aussi, c'est que les gens ont des délais, ils doivent rentrer parce qu'ils ont l'heure du travail ou quelqu'un qui doit repartir et ainsi de suite. C'est vrai que le grand voyage a besoin d'avoir du temps, quoi. Le grand voyage a besoin d'avoir du temps. Il faut pas être tenu par un calendrier.
Et finalement, se dire, comme beaucoup, moi, je pars, je vais faire le tour du monde en un an. Est-ce que déjà ça, c'est déjà se mettre des contraintes qu'on ne devrait pas.
Oui et non. Si, ce qu'ils font, je trouve ça déjà admirable. Je trouve ça déjà admirable. J'en vois. Un an, ça me paraît un peu court, faire un tour du monde.
Oui,
mais
voilà,
mais il y a des gens, par exemple, qui font un périple un peu moins grand, le tour de l'Atlantique, qui vont jusqu'au Brésil, aux Antilles et au Canada. En un an, c'est un magnifique voyage. Et puis après, ça peut ouvrir sur des voyages plus longs, quoi. Mais c'est... Moi, je connaissais pas grand-chose. J'ai appris petit à petit. Et puis, quand vous avez fait toute une série de petits pas, tout d'un coup, vous avez changé de continent sans vous en apercevoir, sans vous en être aperçu, quoi. Et puis, ça continue comme ça. Et moi, ma vie, ça a toujours été comme ça. Vous avez dit le mot tempête tout à l'heure. Vous avez navigué beaucoup. Ça dépend des régions aussi. Si on évite les régions d'Atlantique Nord, spécialement en hiver, les tempêtes sont quand même une chose très rare. C'est quand même une chose très rare. Pour vous, sur le petit bateau à rame, les tempêtes sont... Ce qui est du simple mauvais temps devient facilement une tempête, ou bien en naviguant dans les 40e, comme vous l'avez fait, vous allez le chercher, les tempêtes. Mais moi, je suis un navigateur de beau temps. Et nous sommes beaucoup de navigateurs de beau temps qui choisissons des bonnes saisons, le bon moment, ne partons pas avec... Et surtout, on n'est pas en guerre, on n'est pas en course. Je vois le dernier Vendée Globe.
Alors justement, est-ce que vous suivez le Vendée Globe? Est-ce que ça vous fascine, le monde des coureurs au large?
Non, aucune compétition ne me fascine. Je pense que la compétition est une erreur dans tous les domaines, que l'homme vaut beaucoup plus que la compétition. Soumettre l'homme à une compétition, soit à l'exercer, soit à la digérer, à la regarder, c'est diminuer l'homme. L'homme, il vaut beaucoup plus que la compétition. L'homme, il est là pour faire quelque chose, pour chercher des gouttes de bonheur, des moments de bonheur, et pour les partager, et pour apporter des bonheurs.
Certains trouvent du bonheur dans ce combat les autres.
Ils le trouvent, je pense, mais je voulais juste dire une chose. Je ne veux pas remettre en question tous les sports, une station comme Europe 1.
Non, mais en tous les cas, pour ce qui est du Vendée Globe.
Voilà. Sur le Vendée Globe, par exemple, je trouve de fixer une date de départ. C'est tous les intérêts commerciaux qui veulent ça. Fixer une date de départ, et puis il y a une tempête épouvantable qui est annoncée.
Ah bah, ça a été le cas, là.
Qui est annoncée dans les deux jours qui viennent, et un tiers des machines sont cassées.
Oui.
Personnellement, je trouve ça pas du tout marin. Je trouve que c'est pas du tout marin. Pour moi, s'il n'y avait pas toutes ces obligations, que l'antenne est prise, que les trucs de la publicité, tout ça et tout, je dirais, écoutez, remettez votre voyage, donnez une chance, envoyez pas les gens directement dans le casse-pipe du premier jour, quoi. Mais maintenant, c'est comme ça, c'est pas marin. Pour moi, c'est pas marin, c'est l'héritage du commerce du thé, par exemple. Il fallait que c'est le voilier qui arrivait le premier, qui vendait. C'est une chose commerciale, quoi. Les gens qui prennent leur temps, dans la vie, en bateau, comme dans toutes les choses dans leur vie, le commerce est moins important.
Est-ce que vous avez gardé des liens avec des grands navigateurs aujourd'hui?
Ah, ben j'adore.
Vous citez, Titouan Lamazou, Loïc Perron dans votre livre.
Voilà, il m'avait fait la gentillesse de m'accompagner. Je raconte aussi des tas d'aventures dans la chanson, dans les médias. Ce livre, c'est pas seulement un livre de récits du bout du monde, mais des tas de choses qui me sont arrivées. Et entre autres, là, j'avais enregistré une chanson avec Titouan Lamazou, Poupon, Terlin et Loïc Perron, donc. Et Loïc, ben, je suis ravi de voir que Loïc, ça se passe bien, il fait encore des courses extraordinaires, et que Titouan, il fait des choses merveilleuses. Mais ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils ont, au fond de leur cœur, l'envie aussi de faire des croisières, de faire des rythmes plus lents et de mieux savourer la beauté du monde. Bon, qui se réalise qu'ils aient du bonheur à faire des exploits, j'en doute pas, en particulier avec un gars comme Loïc. Mais je sais qu'ils ont aussi, au fond de leur cœur, cette idée d'aller à un rythme plus lent dans des endroits magnifiques.
C'est pas le cas de tout le monde. monde. C'est vrai que certains restent sur la course seulement, et pourtant d'autres partent en Polynésie. Alors il y a une rencontre, moi, qui m'a fait sourire dans votre livre, parce que vous parlez bien sûr de Pouron, de Tétouan et de Poupon. Mais alors vous dites que vous rencontrez un jour quelqu'un, un autre grand navigateur, qu'on vous présentez, que vous voyez pas très bien dans la pénombre. Et alors vous dites candidement, ah bon, qui c'est? Et la personne dans la pénombre répond, j'imagine avec une grosse voix, et répond, c'est Olivier de Kersauzon. Alors peut-être, alors je cite votre livre, hein, c'est page 59 de votre livre Au bout de mes rêves. Et alors vous écrivez, peut-être parce que je ne l'avais pas reconnu tout de suite, peut-être simplement parce que c'était sa forme d'esprit, le voici aussitôt qui m'agresse, me prend de très haut, m'explique qu'un bateau s'est fait pour qu'on lui fasse rendre les tripes. Vous autres, et vous citez Olivier, les vagabonds, vous n'avez rien compris, vous êtes tous des campeurs, casse-toi, tu me fais chier.
C'est
terrible.
Ma première rencontre avec Olivier, qui est réputé être assez bourru, hein.
Oui, quand même.
Et deux ou trois fois plus tard, on s'est croisés à d'autres endroits où il continuait son agression. Et puis un jour, beaucoup plus tard, j'étais sur un ponton en Guadeloupe. Et puis tout d'un coup, j'ai lu dans son regard qu'il dit, ah non, j'arrête mes conneries et tout. Et tout d'un coup, il est devenu sympathique. On est d'excellents amis maintenant, mais j'adore raconter ce genre d'aventure parce que c'était vraiment, moi, ça me faisait un drôle d'effet, ce garçon. Puis je rencontre, il me dit, monsieur, je vous ai retiré mon bonjour il y a 10 ans, c'est pas pour vous le rendre aujourd'hui. Mais c'était une forme de cinéma, quoi. C'était ça. C'est toujours son caractère. C'est toujours
En tous les cas, aujourd'hui, lui qui est un grand coureur au large, maintenant vit, je crois, en Polynésie.
Mais on s'est rencontrés en Polynésie dans un archipel perdu, au Gambier. Lui était sur son trimaran à moteur, au Ocean Alchemist. Et puis moi sur mon catamaran jaune. Puis on s'est croisés très gentiment, puis sympathiquement. Non, c'est des anecdotes amusantes, quoi. C'est des anecdotes. Il y a jamais eu de haine. C'est comme l'histoire de Johnny, vous en parlez tout à l'heure. Quand on se croise avec Johnny, c'est amusant de raconter ces vieilles histoires.
Et il y en a aucun de ceux-là que vous avez souhaité emmener avec vous, justement? Leur proposer de venir faire un grand voyage.
Je vais vous dire, celui avec qui j'ai fait des voyages, des petits bouts de croisière et dont j'avais gardé un souvenir merveilleux, c'était Eric Tabarly. On s'est retrouvés aussi bien en Polynésie. Il était dans une période bénie parce qu'il était entre deux courses et il faisait presque du tourisme, une croisière plaisante, en Polynésie. Et le voir danser le tamouret, j'en avais même tiré une chanson, Tabarly danser le tamouret. Et puis, je l'ai retrouvé en Bretagne, je l'ai retrouvé aux Antilles où il naviguait. C'est vraiment une personne qui était vraiment fait selon mon cœur.
Et on continue de voguer sur tous les océans avec Maud Fontenoy et le chanteur Antoine.
Alors, on se retrouve une chose qu'on se demande quand on parle d'Antoine, parce que chaque navigateur a forcément un bateau. Alors, vous en avez eu trois, on peut dire, trois grandes histoires d'amour. Ça a été Home, ça a été Voyage.
Voyage.
Et puis le dernier qu'on connaît bien, le petit catamaran jaune, Banana Split. Il y a un lien particulier avec ces bateaux-là. C'est vous qui en avez... vous n'avez pas fait les plans. Vous avez travaillé avec Michel Joubert, je crois.
Voilà, trois.
Mais par contre, vous avez suivi les constructions. Vous avez travaillé avec eux.
Ah oui, pour moi, il n'était pas du tout question d'acheter un yacht, et encore moins avec un équipage. C'était pas du tout un bateau de série. C'était, au début, j'avais été conseillé par deux garçons qui avaient fait un tour du monde absolument extraordinaire, les Damiens.
Sur un bateau
qui s'appelait Damien,
ouais.
Et qui s'était fait construire ce bateau. Il se faisait construire une goélette de 14 mètres. Ça me paraissait beaucoup trop grand, et c'était beaucoup trop grand. Mais il m'avait convaincu, et il m'avait fait découvrir le fait d'avoir un bateau, la possibilité d'avoir un bateau avec un faible tirant d'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'eau, beaucoup d'eau pour avancer. Il peut rentrer dans des baies où il y a à peine un mètre.
Oui, pour ceux qui connaissent pas trop, voilà, c'est vrai que vous allez nous en parler. Finalement, quel est le meilleur bateau pour partir?
Et tout
petit bateau, pas beaucoup de quilles.
Voilà, pas beaucoup de tirant d'eau. Le premier avait une quille qui descendait, le deuxième avait une dérive qui descendait, et le troisième est un catamaran. Et ça vous ouvre totalement des possibilités d'aller dans des endroits où très peu de gens vont, quoi. On n'est pas du tout, moi je vais pas dans les marinas, très rarement. Pour des raisons techniques de temps en temps, mais c'est pas dans les marinas. L'idée, c'est de chercher des petites baies tranquilles. On voit quelques-unes de ces images dans le cahier du livre. Puis j'essaie de décrire ces moments magiques. Il m'arrive, seul ou bien avec ma compagne, de rester 2 mois dans une petite baie comme ça, d'une île déserte, avec seule compagnie les oiseaux, un petit requin qui vient faire le tour du bateau de temps en temps, qui vient regarder ou des rémoras ou des poissons, et puis des fleurs qui embaume tous les matins, et puis la tranquillité, partir tout d'un coup, marcher, grimper sur la montagne pour regarder son petit bateau au milieu du lagon bleu, regarder les coraux, regarder un bateau qui passe au loin, de temps en temps une rencontre, et puis, bon, le travail, j'écris, je photographie, je fais le montage des films, mais dans un décor qui continue à me faire rêver au bout de tout ce temps-là, quoi.
Alors, juste pour revenir sur l'idée du bateau, parce que c'est souvent la question technique qui peut parfois faire peur, vous dites qu'aujourd'hui, le catamaran, c'est votre meilleur ami, c'est ce qu'il faut quand on veut partir justement dans ces îles-là.
Oui.
Parce que c'est un bateau qui tient aussi le mauvais temps. Alors, vous dites qu'on peut choisir de ne pas aller forcément dans des zones où il y a du mauvais temps.
Voilà,
néanmoins, on rencontre parfois des coups de vent.
Oui, non, c'est un bateau très stable, très sûr. C'est pas du tout une bête de course. C'est pas du tout ces bateaux qu'une rafale de vent peut envoyer en l'air tellement ils ont des grandes ailes, des grandes voiles. Moi, c'est un bateau rustique, confortable, qui va pas chavirer à moins d'avoir une monstrueuse vague des 50e rugissant. Mais c'est pas les endroits que je fréquente. Non, c'est un bateau. Ça fait 19 ans que je l'ai. 19 ans que je l'ai. J'y ai jamais eu peur une seconde. À bord de ce bateau, et il m'a amené vraiment dans les endroits dont je rêve, quoi. C'est un bateau, mes trois bateaux de suite ont été construits par un chantier à Tarare dans le Rhône qui avait construit le bateau de Bernard Moitessier et qui en a construit beaucoup d'autres et qui se fait la spécialité de construire des bateaux pour long voyage, quoi. Le chantier maintenant s'est installé en partie à Tarare, mais les catamarans sont construits du côté de Saint-Raphaël, s'appelle Prometa, et c'est vrai que d'avoir l'appui de Michel Joubert, excellent architecte, et de ce chantier m'a énormément servi, m'a été très bénéfique et m'a aidé à faire. Lorsque je voyage, même en solitaire, je voyage pas seul, hein. J'ai tous les hommes et les femmes qui ont participé à la conception du bateau. Ça vous avait fait le même effet quand vous êtes aussi en voyage, en traversée, en course ou en croisière. On se sent appuyé, on n'est pas seul en fait.
On est un petit peu isolé, pas forcément seul. Quand vous parlez de ce chantier qui a construit le bateau de Bernard Moitessier, Joshua, est-ce que Bernard Moitessier, comme beaucoup, comme moi par exemple, c'est un navigateur qui vous a fait rêver, sur lequel vous avez senti le fait que vous étiez un peu sur ses pas?
Il est très présent dans le livre. Bernard est très présent dans le livre. J'ai eu le privilège de vivre quelques journées avec lui dans un endroit incroyable qui était l'île de Souvarov, où il m'avait donné une démonstration de vie en autarcie incroyable. J'ai suivi également la lente et, je dirais pas difficile, mais prenante écriture de son livre fabuleux Tamata ou l'Alliance jusqu'à sa mort, quoi. J'étais même beaucoup plus tard, c'était un simple hasard, mais j'étais en tournage pour un de mes premiers films en Indochine, au Vietnam. Mmh. Je me suis cassé la jambe et j'ai été évacué vers un hôpital de Saïgon. Et la chambre où j'étais, elle venait d'être occupée par Bernard Moitessier quelques jours plus tôt. Voilà. C'était juste avant qu'il ne meure. Mais il a été très important dans ma vie. Je cherche pas du tout à me comparer à lui. J'ai jamais, par exemple, voulu vivre en autarcie, moi. J'ai jamais voulu donner des cours, expliquer aux gens, essayer de changer les gens. Je suis pas donneur de leçons. Tout ce qu'on peut espérer donner comme leçon, les graines d'utopie dont je parlais, c'est de l'exemple qu'on donne, l'exemple qu'on vit. Et puis si les gens vous imitent un petit peu et que ça leur a donné des idées surtout et les a libérés un petit peu, eh bien c'est pas inutile.
Et puis les traces que vous laissez, hein, tous ces films qui sortent sur toutes ces îles que vous rencontrez et puis que vous nous racontez, ce dernier livre Au bout de mes rêves aux éditions Artaud, et puis un autre livre que moi on m'avait offert un jour à Noël qui s'appelle Mettre les voiles, et puis il y avait eu un CD-ROM aussi, 1000 astuces pour mettre les voiles, et ça aussi je trouve que ça vous ressemble assez, c'est-à-dire partager, inciter, donner des petits tuyaux, montrer que c'est pas si compliqué.
Voilà, c'est une idée qu'on a eue en même temps, une conversation avec Bernard Moitessier d'ailleurs, il y a bien bien longtemps. Il manquait un livre qui aborde tous les aspects de tout ce qu'il faut savoir. Vous savez que pour être sur un bateau, il faut savoir naviguer, mais il faut aussi savoir faire l'électricien, le peintre, le cuisinier, le médecin, infirmier, faut savoir tout faire, quoi. Un petit peu tout.
Faut être très débrouillard.
Se débrouiller dans toutes les branches, quoi. Et il n'existait pas un livre qui rassemble tout ça. Et alors, lui avait envie de le faire, il l'a fait à sa façon, sa vie, en particulier dans les îles, sa vie en autarcie.
Oui, on retrouve Bernard Moitessier dans ses ouvrages, toujours des petits croquis, il explique, très pédagogue.
Et le mien, Eh bien, c'est un livre qui a plus de 20... il date de 80, 83 par là, il a 25 ans, et il va être réédité. Il a été réédité toujours, et là, je suis en train de travailler à le réécrire avec toutes les choses qui ont changé. En particulier, l'année prochaine, Banana Split aura 20 ans, Mon Catamaran aura 20 ans.
Alors, vous l'amenez sur le salon nautique?
Non, parce qu'il va pas rentrer en Europe. Zut. Non, mais par contre, je pense au salon nautique à avoir exposé des belles photos de ses 20 ans de voyage, montré les 20 plus belles escales, et 20 progrès qui nous ont changé la vie. Vous parlez de la météo, par exemple. Il y a les communications maintenant grâce aux satellites artificiels. On n'est pas allé dans la Lune. Moi, j'ai une déception, c'est qu'on n'est pas allé dans la Lune, alors qu'on rêvait d'y aller. Mais par contre, il y a au moins des progrès extraordinaires. Le GPS qui nous change.
Vous, aujourd'hui, vous avez un téléphone satellite à bord de Banana Split?
J'ai un téléphone satellite, oui. C'est un téléphone satellite.
Vous en servez beaucoup?
Je m'en sers beaucoup. Je reçois, entre autres, vous parliez de météo. J'allais parler de la météo. C'est un progrès extraordinaire. Les fichiers GRIB, spécialement dans les océans. Je ne sais pas si quand vous avez ramé à travers un océan, vous aviez peut-être...
Ah, malheureusement, à la rame,
ça n'existait pas.
On n'a pas l'ordinateur.
Mais sur le voilier, sans doute.
Sur le voilier, plus, oui.
Et les fichiers GRIB, c'est extraordinaire. C'est des fichiers en deux mots. J'explique aux gens qui ne connaissent pas. C'est des fichiers qui vous donnent très, très légers. Donc, ils peuvent venir avec, par un téléphone satellite où le débit d'Internet est très, très lent, quoi. Et qui vous donnent la direction et la force du vent. D'une façon assez incroyablement précise et pour plusieurs jours, 3, 4, 5, 7 jours. Et ça vous permet de vous préparer. Les coureurs, eux, choisissent les moments où il y a du gros vent pour aller justement vite. Moi, c'est plutôt le contraire. Il m'est arrivé en une traversée que je raconte aussi dans le livre, traversée depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'à la Nouvelle-Zélande jusqu'à Tahiti, jusqu'aux îles, les îles australes. Il m'est arrivé de voir qu'un coup de vent allait passer devant moi. Et grâce à ces nouveaux progrès, je savais exactement où il allait passer. J'ai attendu 24 heures. J'ai levé le pied. J'ai vu exactement le coup de vent passer devant moi. Et puis quand le vent a tourné, je suis parti. Et j'ai jamais eu plus de 35 nœuds de vent jusqu'à mon arrivée comme ça. Bon, on peut avoir aussi des malchances, mais il y a un certain nombre de progrès qui sont extraordinaires.
Vous voyez, on disait en début de cette émission, parfois, on a tendance à dire, il y a 30 ans, c'était plus facile de quitter tout et de partir. Et pourtant, non. Parce qu'aujourd'hui, on a des moyens facilités, de sécurité, notamment.
Ah ben, écoutez, moi, je parle de graines d'utopie toujours, puis tout à l'heure, hein. Il y en a. Mon bonheur, c'est de les chercher tous les jours. Ici, bon, c'est le truc extraordinaire, le fait qu'on puisse avoir une petite machine qui coûte quoi 100 euros maintenant dans votre voiture, qui vous guide pour aller dans des endroits insensés. Moi, je traverse en voiture les États-Unis ou le Canada ou je sais pas, ou la Nouvelle-Zélande, et il y a une petite voix. Je lui ai donné l'accent québécois parce que j'aime bien, elle s'appelle Julie, mais c'est pas Julie d'Europe 1, non. C'est une québécoise qui me dit où il faut aller. Ça, c'est extraordinaire. Puis plein d'autres choses, quoi. J'adore la technologie. Quand elle aide à la création et forcément au bonheur.
Alors, ceux que vous rencontrez sur pendant vos voyages, alors avant de parler des autochtones, ceux que vous allez voir, on va parler de ces îles que vous aimez nous faire découvrir, mais ceux qui voyagent, comment ça se passe les rencontres avec les autres voyageurs? Est-ce que vous rencontrez aujourd'hui certains qui n'y connaissent franchement rien du tout, qui sont un peu en perdition, qui s'entre-déchirent, ou au contraire, vous êtes surpris?
On trouve de tout, hein. On trouve de tout. On trouve des gens qui connaissent pas grand chose, mais ils vont pas très loin en général. Ou bien alors, s'ils ont été prudents, s'ils sont allés par petits pas, ils apprennent en route. Oh, il y a toutes sortes de gens. Et c'est dans ces dernières années, je suis content de voir que, bon, dans le contexte chez les Américains, par exemple, les gens qui partent en bateau sont souvent des gens assez âgés, quoi. C'est souvent des gens à la retraite, quoi.
Ouais,
gens, ils vivent une deuxième vie ou une troisième vie. Souvent, un ménage reconstitué, une nouvelle compagne et tout. Et, curieusement, je vois beaucoup de jeunes maintenant. Il y a des possibilités qui n'existaient pas. Sans parler de bateau, je conseille toujours l'histoire du tour du monde, un voyage, et les billets tour du monde, qui sont des billets d'avion à des prix tout à fait raisonnables. Bon, ça a augmenté avec le prix du fuel, mais ça a peut-être baissé maintenant que le pétrole descend.
Ouais.
Des voyages autour du monde où on peut faire 20 escales pour le prix d'un long courrier, quoi. Et ça n'existait pas. Maintenant, on peut faire des tas de choses qui existent. Je crois qu'il y a des petites graines d'utopie comme ça qui poussent. Et dans le voyage, il y en a plein, quoi. Donc, je vois des gens. Là, je voyais un gars... Un breton sur son voilier, ce petit voilier solitaire, un petit voilier qui doit faire 9 mètres maximum. Et
14 mètres, c'était trop grand.
Ah bah c'était beaucoup trop grand. Mon deuxième bateau faisait 9 mètres, un peu plus de 9, presque 10 mètres. Quoi.
Et le Banana Split?
Banana Split fait 12 mètres. J'ai visé trop grand d'abord, trop petit ensuite, et maintenant, c'est la bonne taille, puisque j'en suis content, je l'ai depuis 19 ans.
J'ai depuis 19 ans. 12 mètres.
Et ce gars-là, sur son petit bateau, eh ben, il reçoit du monde. c'est pas du charter, mais il a un blog, il raconte ses voyages et tout, et puis il reçoit de temps en temps des gens qui viennent passer 3 semaines, 1 mois, 6 semaines sur son bateau, qui l'aident à faire bouillir la marmite, comme ça, hop, il fait
le charter,
ravitaillement, et puis il continue.
Il y en a beaucoup qui vivent de ça, parce qu'après on se demande comment on vit, on va revenir sur votre vie à vous. Est-ce que vous avez été tenté par ça?
Non. Le charter, ça a beaucoup changé, c'est devenu beaucoup plus professionnel.
Ceux qui nous écoutent, le charter, c'est le fait que les personnes qui habitent sur des bateaux, finalement, mettent à disposition peut-être 1 ou 2 cabines de leur bateau et puis font naviguer.
Ça existe.
Tout un chacun, voilà.
Ça existe toujours, mais maintenant, il y a eu beaucoup de concurrence puisqu'il y a eu des grandes sociétés comme Moorings et d'autres qui louent des bateaux entiers. C'est devenu une industrie pratiquement. Mais il y a toujours des gens comme ça. Lui était un exemple comme ça. Et je suis surpris de voir pas mal de gens dans d'autres domaines, quoi. Des gens qui sont jeunes, qui ont bien gagné leur vie avec une profession ou avec quelque chose qu'ils ont fait, qui leur a réussi et tout. Ou bien alors, qui ont, au contraire, une période de calme et qui en profitent de partir sur un petit bateau sans grand luxe, mais faire un beau voyage et puis ça leur servira pour leur vie future.
Sans grand luxe, vous le dites, c'est cette vie de luxe de votre vie de chanteur d'avant. C'est pas la vie qui vous plaisait finalement?
Non, j'ai eu des grosses voitures. Maintenant, je roule en Clio quand je vais en France, et puis ça va très bien. Je vois pas d'intérêt d'avoir plus que ça. Les seuls, il y a deux.
Il y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Non. On dit, est-ce qu'il faut vraiment avoir un gros pécule de côté pour cette grande résolution de l'année, je pars?
Moi, je dépense. Bon, j'ai la chance d'avoir eu du succès avec les films, que le succès, c'est, chaque fois que le succès avait baissé, ça revenait d'une façon ou d'une autre et tout. C'est pas ça qui est essentiel. Moi, je dépense. Il y a deux choses dans lesquelles j'économise pas, c'est sur les voyages. Parce que j'aime tellement voyager que personne ne pourra me faire être radin, économe sur les voyages. Et puis, le matériel pour filmer, photographier.
Antoine, en ce 1er janvier, nous fait rêver, nous donne envie, nous aussi, de partir réaliser un projet personnel. Peut-être pas tous en bateau, en tous les cas, moi, c'est quelque chose qui me tente. Vous avez vécu avec votre famille aussi sur le bateau. Est-ce que vos enfants sont partis avec vous?
Mes enfants ont navigué peu avec moi, parce que j'ai eu une vie familiale plutôt particulière. Quand mes enfants sont nés, c'était clair que je serais plutôt un oncle voyageur qu'un père présent quotidiennement, comme étaient les capitaines d'autrefois. Capitaines d'autrefois revenant, voyant les enfants de façon très, très intense et très dense, plutôt qu'une vie quotidienne un peu morne, quoi.
Aujourd'hui, les enfants reviennent vous voir?
Mais j'ai un très bon contact avec eux. J'ai toujours gardé le contact avec eux. Je leur envoyais.
Vous avez 3 enfants?
3 enfants. À un moment, je leur envoyais un petit journal qui s'appelait le journal de papa, que je réalisais avec des photos, des textes et tout, que je leur envoyais. C'était les prémices d'Internet ou alors même par la poste avant. Et puis, donc, j'ai toujours un bon contact avec eux. J'essaie d'accompagner leur voyage et leurs aventures et leur parcours d'adultes qui commence maintenant. La vie familiale a fait partie de ma vie, mais c'est vrai que j'ai pas été un parfait exemple de père, en sens que j'ai toujours cherché le voyage et la liberté.
En tous les cas, alors vous parlez de ce petit journal de papa, vous racontiez déjà. Aujourd'hui, dans ces DVD, on vous voit, et on voit des reportages sur vous, on vous voit avec votre petite caméra, on voit vos films diffusés dans les avions. Il y a une façon très simple, vous avez de filmer, de faire découvrir. On a l'impression d'être à côté de vous et de découvrir en même temps. C'est une manière que vous avez apprise quand même, parce que vous êtes très professionnel.
C'est une manière que j'ai apprise petit à petit, avec l'aide de grands professionnels de la vidéo, du reportage, des copains qui travaillaient pour Ushuaïa, pour Thalassa, pour d'autres personnes. Et
pourtant, vous n'êtes pas Ushuaïa qui partent avec des moyens colossaux. On a l'impression que vous êtes tout seul.
C'est important, c'est ce qu'on m'a dit un jour, c'est que l'impression, c'est on voit les films, c'est que on voit ma vie comme s'il y avait une espèce de petite fée qui était en l'air, qui filmait, qui montrait ça et tout. C'est pas du tout une grosse machine. Il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas d'extrême. Je suis pas. J'admire les gens qui font des documentaires, qui vont voir le peuple, l'ethnie très très préservée, qui a jamais rencontré personne.
Ça coûte beaucoup d'argent.
Ça coûte beaucoup d'argent. Et puis c'est pas du tout ma vie. Moi, je blague. Les gens qui ont vu. Qui voit mes films, ils se disent, si ce grand couillon d'Antoine, il est là sur cette plage, ou devant ce plat, ou devant cette fleur incroyable, ou devant cet animal à la fourrure si douce, je pourrais y être moi aussi. Il se dit, ça rend la chose possible, quoi. Ça fait rêver et ça rend la chose possible. Et moi, mon plus grand bonheur, c'est quand je suis dans un endroit à Madagascar ou ailleurs, et puis que quelqu'un me dit, je suis là, et je le vois devant un décor incroyable que je connais, que je suis retourné voir, et il me dit, je suis là, je suis venu le voir parce que j'ai vu un film. J'ai vu un de vos films. Voilà. Ça veut dire que là, c'est pas inutile, quoi.
Pourtant, vos films, c'est quand même 52 minutes. Ça doit être beaucoup, beaucoup de rush, c'est-à-dire beaucoup d'heures de tournage.
Pour faire chaque film, il y a à peu près une 30 à 50 heures de tournage, quoi. Et
on prend 52 minutes.
Un 30e, un 50e, quoi. C'est évident.
Comment vous faites pour faire les chants contre chants? Vous avez quand même, parfois, vous faites venir une ou deux personnes pour vous filer un coup de main? Vous faites un petit déroulé?
C'est rare. J'ai des années de repérage derrière moi, comme, c'est-à-dire que c'est des lieux en général que je connais, où je suis déjà allé plusieurs fois. Et puis quand je pars pour les filmer, je sais ce que. Mais j'ai une. C'est les gens qui me croient dans un hamac toute la journée, ils seraient atterrés quand ils me voient, s'ils me voyaient comme ça. Parce que quand je suis en train de filmer, je galope pour saisir chaque minute. Des fois, ma compagne me dit, j'arrive pas à suivre, hein. Alors je suis en train de galoper parce que je sais qu'il faut monter au sommet d'une montagne avant telle heure parce qu'il y aura la vue sur la baie magnifique. Et puis le soleil va être passé derrière la colline, donc ça va être raté. Donc si je ne fais pas en courant, je ne fais pas. Alors je galope. Alors déjà, les gens me regardent, mais il est fou. Alors, ceux qui me croient dans un hamac, ils se. Mais c'est.
Oui, c'est marrant parce qu'on imagine Antoine. C'est vrai, on pense Baba Cool, on pense celui qui ne fait rien. Et pourtant, celui qui voyage, c'est quand même celui qui est toujours occupé, il faut le rappeler.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on n'arrête pas. On s'occupe du bateau, on s'occupe de la météo, on s'occupe des réparations, on s'occupe de sa survie. On n'a pas grand monde pour vous aider.
Ah ben, les journées sont pleines.
Les journées sont très pleines.
Bon, il y a aussi des journées. Il y a aussi des journées de rêve. Il ne faut pas les cacher non plus. Où tout d'un coup, tout marche bien sur le bateau. Tout est automatique et tout va bien. On sortira deux fois trois minutes sur le pont pour régler deux cordages. Ça existe, ces journées-là aussi. Mais c'est pas le quotidien. Le quotidien, c'est des tas d'aventures. Et dans ces reportages pour tourner tous ces documentaires, tous ces films, quand j'arrive dans un pays, moi, je pose mon sac peut-être à l'hôtel ou à la pension où je vais m'installer. Mais c'est pas pour me reposer, c'est pour aussitôt galoper, aller voir, qu'est-ce qu'il y a à filmer, qu'est-ce qu'il y a de beau et tout.
Alors, ça veut dire que Banana Split vous accompagne pas partout. Parfois, vous êtes dans un port, puis ensuite, vous partez plus loin, vous allez dans les terres, vous partez à pied.
Voilà. Il m'arrive aussi de laisser le bateau, puis d'aller de l'autre côté de la planète, parce que j'ai pas la prétention de visiter tous les endroits de la planète. Par exemple, dans les nouveaux films, il y en a un sur l'Afrique australe.
Voilà, c'est les deux films, hein, donc, qui viennent de sortir cette année, hein. L'Afrique australe et la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Alors, forcément, c'est des paysages qui se ressemblent pas du tout. Pourquoi ces deux endroits?
C'est complémentaire. Pour moi, c'est dans cette collection de films. Maintenant, je les tourne en haute définition en plus.
Tourne en haute définition. Très, très belles images.
Et sitôt que vous serez équipé, je parle aux auditeurs, si vous serez équipé d'un lecteur Blu-ray, c'est pas la publicité, hein. C'est le nouveau standard de lecteur de DVD. Le DVD avec une définition 5 fois meilleure. Les images viennent d'une beauté incroyable. Donc, je tourne en haute définition. Et les deux films-là sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais entièrement avec le voilier. La Nouvelle-Calédonie, c'est un tour de la Nouvelle-Calédonie en passant par l'île des Pins, dont on dit que c'est l'île la plus proche du paradis, avec son ethnie, qui sont les Kouniers, qui sont très intéressants avec leur tradition, et puis les lagons d'une beauté incroyable.
On parle un peu de la Nouvelle-Calédonie, juste pour faire une petite escale sur cette île, et on va parler tout à l'heure d'écologie un petit peu, parce que vous êtes un peu un des ambassadeurs de cette protection des coraux. Là-bas, le plus beau lagon du monde, on le dit, la Nouvelle-Calédonie, qui a été protégée maintenant par l'UNESCO. On parle également de l'usine de Prony, qui semblerait beaucoup de choses dans la mer et détruit.
Je parle de ce dilemme. J'en parle brièvement. Comme vous le savez, moi, je mène pas de combat. Je pense que c'est en montant. J'en parlais avec un grand photographe hier, spécialiste qui revient de l'expédition Tara. Et voilà. Et qui a la même conception que moi. Il faut montrer. Bon, j'apprécie énormément le combat de Nicolas Hulot, de Al Gore en particulier. C'est important. Mais on a chacun des sensibilités différentes. Moi, j'ai envie de montrer la beauté et j'espère que les gens vont vouloir protéger comme ça. Donc, je dis ce problème, mais plutôt que de montrer les défauts, d'aller filmer de gros plans de tuyaux qui déversent des boues rouges dans la mer et tout, je montre la beauté en disant que peut-être qu'en la montrant comme ça, les gens auront envie de la protéger, quoi. Et dans ce film, il y a des images sous-marines à tomber par terre de la Nouvelle-Calédonie.
Alors, vous tournez sous l'eau?
Alors, non, les images sous-marines, je les fais avec des cadreurs locaux équipés. Là, c'est un garçon qui s'appelle Eric Lua qui fait des très belles images. Donc, sinon, parfois, je plonge avec lui. Parfois, il me ramène des images qu'il a ramenées d'autres choses. Les images de sous-marines, c'est pas la plus grande constante, mais quand un endroit est aussi beau que la Nouvelle-Calédonie, je peux pas ne pas avoir des images sous-marines.
Et vous aimeriez pas apprendre à les tourner vous-même?
J'ai pas les caméras qu'il faut pour le sous-marin moi-même. Et puis c'est un travail de très grand spécialiste. Donc je me suis toujours adressé dans le sous-marin. J'ai toujours eu des cadreurs. J'ai souvent utilisé le travail d'un cadreur qui est venu travailler avec moi, des très bons chefs opérateurs qui viennent de temps en temps. Et c'est une alternance entre ça et puis les choses que je filme tout seul avec la caméra ou tout seul avec ma compagne, quoi. Là, Ce voyage Nouvelle-Calédonie a été un des films. L'autre film, c'est justement l'autre aspect. J'ai laissé le bateau, il devait être en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs.
C'était l'Afrique australe, non?
Et je suis allé en Afrique australe. Ça faisait partie d'un grand voyage autour du monde, dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous a amené entre autres en Afrique australe et revoir des endroits que je connaissais bien. Les traditions des Makishi, qui sont une tribu du côté du Zimbabwe, du côté de les chutes Victoria.
C'est-à-dire que vous rencontrez, c'est pas seulement les paysages, c'est aussi aller voir les peuples qui y habitent.
Je suis plus paysages, animaux et plantes. J'aime pas beaucoup embêter les gens.
Vous avez l'impression que tous ces films qui sont justement à la rencontre, vous avez l'impression que c'est un peu la plaie pour eux, pour les locaux justement, d'avoir ces caméras pointées sur eux?
Ben, moi je suis un peu timide de ça. Je sais pas, je veux pas juger, je ne veux pas du tout médire de ceux qui se penchent. On a chacun ses sensibilités. Moi j'aime pas beaucoup aller embêter les gens, quoi. Si je vois des gens qui ont envie, comme les Indiens Kuna, ou bien les gens de l'île des Pins ou d'autres endroits, ou bien les Makishi là-bas, c'est très bien. Mais je suis pas un ethnologue poussé, quoi. J'aime pas embêter les gens.
Alors, parce que vous avez donc peut-être le ressenti que vous les embêtez, comment vous êtes reçu sur place?
Oh ben, je peux pas dire embêté, je dis comme ça, j'aime pas.
Vous osez pas.
Je suis un peu timide comme ça, j'aime pas. Et puis, c'est vrai que la nature sans l'homme est très belle aussi. Des fois, l'homme la cache. Bon, j'exagère un peu. Mais là, dans les parcs animaliers du Botswana, ce sont les animaux. C'est les animaux. Là, on a eu la chance de voir une tribu de lions, une troupe de lions. J'ai cherché le mot officiel. C'est une troupe. Toute une troupe de lions venue boire un trou d'eau à 10 mètres de nous. Et c'était comme le jardin d'Éden, quoi. C'était comme le paradis terrestre.
Jusqu'à 11h, nous sommes toujours avec le poète, chanteur, voyageur Antoine, un sacré personnage, il faut le dire, n'est-ce pas, Maud Fontenoy?
Et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission avec Antoine, on s'ennuie pas, il nous fait rire entre les pauses. C'est vraiment un monsieur que j'aimerais vous faire rencontrer, j'espère que vous avez appris à mieux le connaître dans cette émission. En tous les cas, j'espère que vous irez à la rencontre de ses livres et de ses films. Alors, dans ces DVD, on part souvent dans des îles. Pourquoi les îles?
Quand je suis parti, je m'intéressais aux grandes villes. J'allais à Rio de Janeiro, sur les côtes d'Afrique, le Canada et tout ça. Et puis, quand je suis arrivé dans les îles, je me suis aperçu qu'on se sent différent. Quand on arrive dans une île, on se sent plutôt protégé. Il y a peut-être un côté maternel ou un côté... Enfin, une protection, une certaine forme de protection. On est... Si je mets le pied dans une île, même lorsque je viens en France, j'habite dans une île sur la Seine. Et si donc j'arrive sur cette île, bon, cette île, il y a des voitures, il y a des maisons, il y a la même vie que partout ailleurs, mais c'est pas pareil, quoi. On se sent, c'est pas parce qu'on est entouré d'eau, c'est qu'on, peut-être qu'on se, on dit, c'est comme dans les westerns où on ne s'assoit jamais le dos à la porte. Dans l'île, on n'est jamais le dos à la porte. On sait d'où pourrait venir l'envahisseur.
Vous avez l'impression que ça vient comme quand on est sur un bateau, on est un peu en autarcie quand on est dans une île?
Oui, on est un petit peu à l'abri des importuns et de ceux qui voudraient vous ennuyer.
On vous imagine au soleil, toujours, c'est le lagon, le soleil, le beau temps. Pourtant, vous avez vécu tout petit à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Oui, ça c'est pas moi qui avais décidé, mais...
Alors, quels souvenirs vous gardez? Vous en souvenez pas?
De bons souvenirs, j'ai adoré. J'y suis retourné en bateau, d'ailleurs, fait partie des choses que je raconte. Là, c'était très chouette de retrouver 35 ans après, l'endroit où j'avais vécu enfant. Et j'ai remonté le Saint-Laurent aussi, j'ai vu des... Ça fait partie des souvenirs, mais vraiment, le soleil, j'ai quand même une préférence. J'ai quand même une préférence pour le soleil.
Vous avez l'impression que les gens sont plus heureux au soleil?
Ben, je crois que l'être humain, il est né au soleil. Il est apparu dans des latitudes ensoleillées. Et puis, pour toutes sortes de raisons, pour envahir ses voisins, pour je sais pas quoi, pour faire pousser des plantes ou élever du bétail, il est parti vers des latitudes plus difficiles à vivre. Mais chaque fois que je suis au soleil, c'est quand même là que je suis le mieux.
Alors, vous parliez de votre DVD Afrique australe, vous parliez de ces rencontres avec ces animaux, ces lions. Est-ce que souvent vous allez à la rencontre avec les espèces vivantes? Est-ce que vous ne faites pas des frayeurs un petit peu?
Je suis pas du tout quelqu'un qui cherche le sensationnel. J'irai pas mettre ma tête dans la gueule d'un crocodile. Mais quand on va dans un pays comme celui-là, ou bien en Afrique australe, là, on a une chance de voir aussi bien des hippopotames, des centaines d'éléphants, dans des antilopes en tout genre, des oiseaux de couleurs incroyables, d'être accueillis par des gens qui nous ont amenés dans les bons coins et tout. Et puis, il y a de tout dans ces films. Il y a de l'art de vivre, il y a des rencontres, il y a des animaux, et il y a surtout des petits moments de bonheur, quoi, des petits moments, et surtout vivables. Ce qui est important, c'est que, comme je dis, chacun des spectateurs peut, bon, les vivre tous, tous les pays que j'ai le privilège, je sais que c'est un privilège de visiter tous ensemble dans une vie, ça paraît improbable. Mais chacun de ces endroits peut être vécu, quoi. Si je devais résumer, la question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que tout le monde pourrait faire ce que vous faites? Je dirais non. Tout le monde ne peut pas le faire, mais chacun peut le faire.
C'est chacun qui partira peut-être en cette année 2009 pour réaliser un grand voyage. Est-ce que vous avez encore des coins que vous rêvez de découvrir? Est-ce que vous avez encore un rêve, vous qui avez déjà vécu beaucoup de choses, beaucoup de vie?
Bon, j'ai des rêves permanents. Les rêves, ils sont partout. Alors, j'ai envie de voir des tas d'endroits. Je ne suis pas tenté par les endroits très peuplés. Je n'ai pas envie d'aller en Inde, en Chine. Ça ne me tente pas beaucoup.
Ah, c'est vrai?
Non, ça ne me tente pas beaucoup.
Vous n'êtes pas allé au JO de Pékin?
Et puis, encore une fois, j'aime les endroits où on vit libre, quoi. Où on vit libre. J'aime pas les contingences, les sociétés dans lesquelles on ne peut pas être libre de son corps, de son âme, de ses jours et de ses rencontres.
Est-ce que vous êtes tombé amoureux, comme beaucoup, des îles Marquises?
Je suis pas tombé amoureux des îles Marquises, qui sont très belles, prenantes, avec les populations très intéressantes, très fascinantes aussi, des traditions, un art, un artisanat aussi, mais un peu âpre à mon goût. Et puis, comme vous savez, sur un bateau, en haute mer, on se fait secouer. Et puis, quand on arrive au mouillage, on aime bien des mouillages bien, bien abrités, quoi. Alors, il y a des îles qui sont mieux que les Marquises. Des îles qui sont bien mieux, comme les Gambiers, les Australes, où je passe tout ce début de 2009, là où je passe deux mois pour savourer la beauté de cette île.
Vous voyez, il y en a qui restent à Paris et d'autres qui vont aux îles Gambier. Voilà. C'est marrant parce que vous parlez souvent d'îles en parlant de petits coins, comme si vous dévoiliez un secret. Vous n'avez pas peur que tout le monde arrive, l'affluence aux îles Gambier?
Non, les endroits où je suis, c'est loin. Hein. Les endroits où je suis, c'est loin. Et puis, il faut avoir un... J'ai un bateau magique. Hein. J'ai un bateau magique. Banana Split, il rentre dans des endroits où personne d'autre ne peut aller. Non, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai. Je crois pas. Le monde est immense. Il y a plein d'endroits merveilleux. Moi, j'ai trouvé une tapée de beaux endroits, quelques beaux endroits en particulier où je retourne fréquemment. Et je les ai pas vus s'abîmer. Si, s'abîmer, bien sûr, parce que la planète est en train de s'abîmer de façon générale.
Peut-être justement, pour terminer cette émission, alors on va pas terminer sur une note négative, parce que vous aimez pas le faire. Par contre, vous êtes quand même un témoin de ce qui se passe. Vous passez votre temps à voyager autour du monde et à découvrir des paysages magnifiques. Est-ce que vous les découvrez moins beaux aujourd'hui?
Ben, il y a plus de 20 ans, j'écrivais une chanson qui s'appelle Touchez pas à la mer. J'ai toujours le projet.
À 20 ans, vous étiez déjà précurseur là-dedans.
Il y a 20 ans, oui. Une chanson qui s'appelle Touchez pas à la mer, que j'aimerais réenregistrer avec beaucoup de chanteurs et surtout pour l'offrir, la donner en cadeau, hein, télécharger gratuitement sur Internet et puis surtout donner les partitions pour que les enfants l'apprennent dans les écoles. C'est une façon d'être utile, quoi. Alors, depuis 20 ans, c'est vrai que des tas de choses s'abîment, qu'on voit même les îles les plus lointaines, on voit des rivages agressés par les vagues, on voit des îlots avec 5 cocotiers qui n'en ont plus que 2 ensuite. Bon, c'est une petite caricature.
Est-ce que vous pensez que la population locale, elle est concernée? Est-ce qu'elle se rend compte que l'eau risque de monter d'ici 2100 près de 50 cm? Ça représentait, je crois, près de 4 milliards de personnes qui vont être en danger.
Vous savez, comme disait Al Gore, des tas de choses qu'on ne perçoit pas, comme la grenouille. Il décrit toujours la grenouille qui est mise dans l'eau froide et puis on fait monter l'eau petit à petit, on fait monter la température de l'eau. Et à la fin, il faut sauver la grenouille, sinon on en meurt, quoi. Et, tandis que si on la met dans un truc
bouillant d'un seul coup,
elle bondit immédiatement, quoi. Et ben, le monde est un peu comme ça, quoi. L'image d'Al Gore est tout à fait vraie, le monde est un peu comme ça. L'eau est en train de monter. Enfin,
c'est un peu comme la vague du tsunami,
au sens propre qu'on va figurer. La vague du tsunami, c'est un petit peu ça, quoi. Bon. Moi, je pense que il faut être positif, j'espère que les prises de conscience, le plus de possible, je suis ravi qu'il y ait beaucoup de prises de conscience depuis 2-3 ans, depuis le travail d'Al Gore en particulier.
Bien sûr.
Et j'espère que ces prises de conscience vont faire, malheureusement, la crise actuelle fait passer un peu au second plan les considérations écologiques,
mais
je suis plein d'espoir. Ben, c'est vrai que quand les gens, ils ont plus d'argent, ils ont moins envie d'aider à planter un arbre, par exemple. Mais, Je suis plein d'espoir quand même.
Plein d'espoir pour la protection notamment des coraux. Vous qui allez sous l'eau également, vous avez l'impression que l'acidification des océans fait disparaître de nombreuses beautés.
L'acidification, changement de température, etc. Bon, j'ai eu le privilège, j'ai eu l'honneur d'être le parrain pendant cette année à l'Océanopolis de Brest d'une exposition sur les coraux qui s'appelle Show les coraux avec des grands experts sur les coraux. Et c'est ma vie quotidienne. Je vois les coraux en permanence et je vois des choses qui se sont abîmées, qui se sont détruites en 10-15 ans. Comme par exemple, les immenses forêts de coraux qu'on appelait cornes de cerf ou cornes d'élan des Caraïbes ont disparu à 95%. On ne sait pas exactement pourquoi, mais en même temps, quand je planche, j'ai plongé à Mururoa. Mururoa qui était un lieu d'enfer il y a 30 ans, 40 ans. Ben, j'ai jamais vu tant de poissons. Et en Polynésie, je vois sur des coraux morts, on a l'impression que la vie n'y reviendra jamais. Et puis on voit naître des nouveaux bouquets de coraux, jolis, colorés, vifs. Et là, j'aimerais rester sur cette image-là.
Voilà, une image positive. Et puis la fin de votre livre, moi j'ai trouvé très jolie. Vous dites « Un matin au toit Moutou, dans notre joli mouillage, au vent d'un îlot ». En fait, vous racontez une belle journée, d'une façon très poétique. Vous dites « Mais la journée est entière, un merveilleux présent, un ciel bleu parsemé de petits cumulus heureux ». Une douce brise pour nous rafraîchir, le tourbillon des sternes paradis, les fameuses goélettes blanches que Bernard Moitessier nous racontait, au-dessus d'un lagon cristallin. Voilà, on a l'impression que c'est votre vie de tous les jours, c'est ce livre Antoine, Au bout de mes rêves, aux éditions Artaud, 30 ans sur les océans, c'est ce que vous nous faites partager depuis tant d'années. Et puis ces livres qui nous emmènent en voyage, ceux qui n'aiment peut-être moins libres, on peut le voir dans son salon. Et on n'a qu'une envie, c'est de larguer la amarres avec vous. Merci Antoine, votre bonne résolution pour l'année 2009.
Eh bien, naviguer en paix, en douceur et ramener des belles images. Et puis que plein de gens aient envie de les partager avec moi. Et pour vous retrouver parfois au bout du monde. Vous aussi Maud, peut-être sur un bateau moins acrobatique, que moins spartiate qu'à la rame ou dans les 40e rugissant. Peut-être un jour, dans un petit lagon bleu pour aller voir les oiseaux blancs qui volent au-dessus d'un lagon si bleu que le bleu de l'océan se reflète sous leurs ailes.
Eh ben voilà, un beau mot de la fin. Merci Antoine, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission, de nous avoir fait rêver en ce début d'année 2009. Encore bonne année à tous et on se retrouve demain. Je vous embrasse.
Au revoir, bonne année.
Oui, très belle nouvelle année à tous et à demain évidemment, c'était Maud Fontenoy. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.